BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est le DJ set des marchés dans BFM Bourse. On n'attend pas 2h du mat pour monter le son. Vos performances prennent du volume dès l'après-midi et jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, on est ravis de vous accompagner au rythme des marchés. Donc, l'indice européen des valeurs, les 600 plus grandes valeurs, est un peu historique. Oui, nouveau record du Stoxx Europe 600 aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Et un nouveau record aussi à Wall Street sur le Dow Jones, qui gagne 1,2%. Ouais, tout ça grâce à cet accord entre Américains et Iraniens sur lequel on va revenir, qui aide nos marchés européens. Le CAC 40 gagne 0,6%. Alors c'est bien plus 0,6%, mais c'est quand même beaucoup moins bien que ce matin. Les cours du pétrole reculent, certes, mais pas plus que ce matin. On est toujours à 83$ sur le Brent. Et puis les taux se détendent, c'est vrai, mais pas non plus énormément. On va essayer de comprendre ce qui retient un tout petit peu le marché. Dans deux jours, la Fed à suivre aussi. On s'oriente vers un nouveau statu quo de la Fed, mais avec un nouveau président, Kevin Warsh, qui prononcera ses premiers propos en tant que président de la Fed lors de la traditionnelle conférence de presse à suivre mercredi soir à 20h30. On va anticiper cela et puis on gardera à nouveau la tech américaine avec SpaceX qui continue sur son petit bonhomme de chemin, son grand bonhomme de chemin. Même le titre avait gagné 19% vendredi pour le premier jour de cotation. Ça continue plus 8% en ce moment. SpaceX, BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché et BFM Business au cœur de toutes les actualités. D'abord la géopolitique. Le G7 va démarrer dans un instant à Évian en Haute-Savoie. Emmanuel Macron qui nous dit qu'il sera question bien évidemment à ce G7 d'énormément de géopolitique. D'ailleurs Donald Trump a atterri sur place là-bas à Genève. Il est en route en ce moment pour la ville d'Évian. Beaucoup de géopolitique avec en plus donc cet accord, c'est vrai, mais cet accord qui pose beaucoup de questions entre Américains et Iraniens. Par exemple là à l'instant, Emmanuel Macron se dit très préoccupé par le maintien d'un péage dans le détroit d'Ormuz. On entend en effet parler d'un péage. Ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite, explique le président de la République, et d'ajouter que ce n'est pas conforme au droit international. Sur l'accord de paix à proprement parler, Emmanuel Macron précise que, je cite, « nous allons tout faire pour qu'il soit une réalité ». Fin de citation. Et bien sûr, ce G7, vous pourrez le suivre sur BFM Business, plus de détails dans 18-19 et 10 Chevrillon tout à l'heure. Grosse affluence attendue cette année au salon de la défense Eurosatory. C'est ouvert ce matin à Villepinte. 2600 exposants, c'est un tiers de plus que pour la dernière édition. Une annonce a retenu l'attention aujourd'hui, c'est Renault et Thales. Ils ont dévoilé un nouveau véhicule militaire sur la base d'une voiture de série bardée de technologies avancées. Ce véhicule militaire sera destiné à déployer des drones et des robots sur le terrain. La fabrication doit débuter et démarrer dès l'an prochain. Le titre Renault, aujourd'hui à Paris, gagne 4%. C'est la plus forte hausse du CAC 40. Et puis plusieurs infos dans la texte après-midi. D'abord, deux rachats en préparation. American Express veut s'offrir la plateforme de réservation de restaurant The Fork, actuellement détenue The Fork par TripAdvisor. Eh bien, American Express veut l'acquérir. Et puis, le groupe de médias américain Fox lui offre 22 milliards de dollars pour reprendre Roku, une plateforme de streaming aux 100 millions d'abonnés. L'autre info importante dans la tech, c'est qu'on apprend aujourd'hui que Jeff Bezos sera à Paris, ce sera mercredi. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, participera au salon Vivatech. Selon les organisateurs, il vient partager sa vision de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'avenir de l'humanité. On va aussi en parler. C'est BFM Bourse, on est à vos côtés. Bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club ce soir, ils sont trois. Alain Pitous, senior advisor, IA for Alpha, il vient de nous rejoindre. Bonsoir Alain, bienvenue.
Bonsoir.
Rolando Grandi, responsable des investissements d'Itavera AM. Bonsoir Rolando.
Bonsoir Guillaume.
Mon petit doigt me dit qu'on parlera d'espace et SpaceX ensemble dans un instant, Rolando.
Bien probable.
Vous êtes un investisseur dans l'espace et vous avez la tête dans les étoiles, j'imagine, en ce moment avec l'intro réussie de SpaceX. Esteban Tesson aussi est avec nous. Bonsoir Esteban. Journaliste pour Zone Bourse.
Bonsoir Guillaume.
Et Esteban, spécialiste de tech également, on va en parler. On parlera aussi bien sûr d'Anthropique quand même, avec ce signal américain sur l'accès aux IA, les meilleures IA du monde, les plus dangereuses aussi. C'est une question. Les meilleures IA d'Anthropique, en tout cas, ne seront plus accessibles aux non-américains, ce qui pose l'enjeu géopolitique de l'intelligence artificielle. D'abord Alain, on est en hausse, oui, on est en hausse, bien sûr. Le CAC 40 gagne 0,6%, on a cet accord annoncé qui doit être signé vendredi, si tout se passe bien, en Suisse, a priori, entre Américains et Iraniens. Oui. Le détroit d'Ormuz est supposé rouvrir, oui. Mais le CAC ne prend que 0,7% cet après-midi. Qu'est-ce que dit le marché là cet après-midi sur ça?
On a salué la bonne nouvelle depuis 2-3 jours. Il y avait des anticipations déjà vendredi. Il faut quand même se rappeler que vendredi, les marchés montaient quand même assez nettement. Donc ça, c'est la première chose. Après, le point qu'il faut hélas avoir à l'esprit, c'est que nos problèmes de l'avant-guerre, on va dire, sont toujours là. C'est-à-dire qu'on a toujours une dette publique énorme, on a toujours des interrogations sur l'inflation qui font que les banques centrales pourraient peut-être monter leurs taux, elles ont commencé à le faire sur la Banque Centrale Européenne. Et puis, on a en sous-jacent assez régulièrement des tensions commerciales qui peuvent ressurgir à tout moment pour sur une maladresse, sur un besoin de Trump d'affirmer quelque chose. Donc ces problèmes-là ne sont hélas pas passés. On a passé la période des résultats du premier trimestre et puis on va attendre quelques jours avant de voir si ce qui se passe sur les résultats du second semestre dans quelques semaines maintenant. Donc on est toujours dans cette réalité avec et ça c'est plutôt positif, le côté plutôt positif c'est que les résultats sont quand même pas si mauvais, ils ont pas été mauvais sur le premier trimestre,
ça nous ils sont passés il y a un mois,
d'accord, mais enfin c'était quand même bien de de l'avoir. Et puis on se demande maintenant lesquels vont passer au travers de tout ça sur le second trimestre. Donc tous ces problèmes là sont toujours parmi nous.
Oui, mais Hormuz, c'est en train de se résoudre, cette crise, cette guerre entre Américains et Iraniens, c'est en train de se résoudre. Alors on sait pas si c'est une paix définitive. On espère que vendredi, effectivement, tout pourra être signé en Suisse. On nous dit que ça va se signer en Suisse. Il faudrait que d'ici là, tout se passe très bien. Le marché a une réserve sur tout cela. On entend parler d'un possible péage sur le détroit d'Hormuz aussi. Alors là, c'est le droit international qui serait bafoué. Oui. C'est très flou, en fait.
Oui, le marché a été très résilient. On était quand même, moi, j'avais été quand même assez surpris de voir sa résilience dans la période de très forte tension. Le marché avait très nettement rebondi aux annonces de trêve il y a quelques semaines maintenant. On reste sur cette idée-là, c'est-à-dire que c'est passé. On va arriver à faire une trêve, parce qu'en fait, ça aussi c'est quand même un truc qui est quand même assez bizarre, c'est que on reste toujours sur quelque chose qui est un mémorandum pour un accord potentiel dans 60 jours, qui serait peut-être à discuter encore. Avec et ça c'est un fait aussi, c'est que on a quand même pas réglé du tout les tensions entre Israël et l'Iran et ses proxys. Les Israéliens ont un avis très tranché sur leur défense, donc ils ne vont pas laisser passer les choses. Au moindre sujet, ils vont réintervenir, donc recréer potentiellement des tensions avec l'Iran. Donc ça reste un accord. On préfère que ça soit comme ça et qu'il y ait des discussions et que tout le monde puisse se mettre autour d'une table, mais on n'a pas résolu le problème nucléaire, on n'a pas résolu le problème des missiles, on n'a pas résolu le problème des proxys et visiblement on n'a pas tout à fait non plus résolu le problème du détroit d'Hormuz, parce que moi c'est quand même quelque chose auquel je pense depuis un moment, c'est que si le détroit d'Hormuz rouvre aujourd'hui, c'est pour que les bateaux sortent. Je pense pas qu'il y ait la même queue pour rentrer que pour sortir. Donc on va effectivement améliorer la situation dans le sens des sorties, mais avant de remettre des bateaux pour aller rechercher du pétrole, je pense qu'il va s'écouler quelques semaines. Donc tout ça fait que on a salué, le marché français, les marchés européens en général ont plutôt été très bons depuis vendredi, avec un peu d'anticipation. Si on regarde les marchés asiatiques depuis l'après-midi de vendredi et aujourd'hui, c'est quand même très bon, mais c'est parce qu'ils en profitent beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on est quand même sur quelque chose qui est plutôt bien, mais qui demande à être un peu confirmé.
Puis il faudra voir s'il y a quelques mines ou pas dans ce détroit d'Hormuz. Enfin, on risque de devoir rester patient.
Et puis la dernière chose quand même, c'est que c'est ce qui se passe sur Anthropique, mais après je laisserai parler mes petits confrères. Ce qui se passe sur Anthropique, ça nous remet encore une claque sur le fait que l'Europe est quand même assez nue sur pas mal de sujets. On n'est pas bien positionné sur des sujets vraiment stratégiques. Et le corollaire de tout ça, c'est, moi j'en discute régulièrement avec des collègues, c'est le transfert d'épargne. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on se présente comme un des plus gros bassins d'épargne mondial, mais on est gentiment en train de se faire aspirer. C'est pas mon confrère qui va parler de SpaceX tout à l'heure qui va me dire le contraire. C'est le monde entier qui investit pour que les entreprises américaines, si on voit ce qui se passe sur Anthropique, imaginons ce qui se passe dans l'espace, prenez l'exemple de Starlink. Si Starlink est coupé en Ukraine, on l'a vu, ils ont coupé les Russes. Donc imaginez, dans 5 ans, on va être tout content, on va avoir financé le développement de Starlink et de l'espace, et puis on va se rendre compte qu'il est non seulement privatisé, mais aussi nationalisé. Ça fait quand même assez mal.
Il y a Eric Lewin qui nous écoute, qui vous écoute en direct et qui m'envoie un message, vous savez, il aime bien faire ça, il dit, il parle beaucoup trop, Alain, ça fait 5 minutes 50 secondes qu'il est en train de parler. Voilà, juste Eric Lewin s'impatiente. Parce qu'il se dit qu'il aura moins de temps de parole.
Mais non, il doit venir après, lui.
Il dit que vous parlez trop. Du coup, je vais être en retard, il aura moins de temps de parole. Je sais qu'il est en train de se dire tout. Rolando, est-ce qu'effectivement SpaceX est un bon exemple, une bonne illustration de ce que vient de dire Alain, à savoir une pompe supplémentaire à aspirer les capitaux internationaux pour l'économie américaine, pour les entreprises américaines? Est-ce qu'il y a de ça aussi dans les enjeux autour de SpaceX qui, encore une fois aujourd'hui, progresse de 7% supplémentaire?
Je
pense qu'il y a plusieurs angles de vue là-dessus, Guillaume. Le premier, c'est dire on est sur des marchés globalisés. Le capital peut plus ou moins, dans la plupart des pays, voyager librement. Et quelle chance on a qu'en Europe, même si on n'a pas accès à ces viviers d'entreprises, bah si on a accès à travers la bourse, on peut aller participer de leur création de valeur au même titre qu'un résident américain qui va épargner sur l'entreprise. Donc déjà, moi, ça me plaît parce que je suis investisseur, je gère des fonds et je permets à mes clients et à ceux qui investissent dans la bourse de faire fructifier leur épargne, peu importe si l'entreprise est américaine, le marché coréen se porte plutôt bien, Taïwan aussi, Japon aussi, il n'y a pas que les États-Unis. Et donc, là, c'est vrai qu'en revanche, ça renvoie vers une vision qu'en Europe, on a un peu du mal à faire décoller certaines industries. Ce n'est pas nouveau, on peut parler du spatial, on peut parler de la défense, où oui, il y a des plans pour redémarrer la machine industrielle des défenses en Europe, mais entre-temps, on consomme en dehors. Donc, c'est des vrais sujets. Dans l'intervalle, je me dis heureusement qu'on peut nous aussi participer à cette création des valeurs et pas que les Américains sur leurs entreprises.
Imaginez, vous préparez votre retraite. Là, on va rentrer dans le débat présidentiel. Vous préparez votre retraite. Il y a la retraite par répartition, bien sûr, en France. Si Elon Musk peut compléter, c'est pas si mal, non? Enfin, si SpaceX peut aider à compléter votre retraite. Non, mais oui, ouais, c'est... vision long terme.
Je suis assez d'accord. On bénéficierait à investir sur les marchés, qu'ils soient européens, internationaux. Il faudrait voir la bourse plutôt comme internationale qu'est locale ou régionale.
Oui, mais on renforce aussi nos dépendances, même technologiques. C'est tout le problème. C'est ce qui fait la valeur de SpaceX, d'ailleurs. En tout cas, la promesse et le fantasme, diront certains. Mais effectivement, SpaceX va devenir la clé, on va dire, le droit de péage de marché de l'espace demain. Et donc, beaucoup dépendra d'Elon Musk. Il pourra couper Starlink où il veut, pour n'importe quel pays, etc., etc. Donc, de ce point de vue, c'est une fragilité pour l'Europe.
C'est une fragilité. SpaceX, c'est un monopole naturel. Il se valorise comme un monopole naturel. Donc, ça a du sens. En revanche, oui, il faut qu'on arrive à développer des technologies, il faut qu'on rattrape. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos d'ArianeSpace qui disaient « Nous, on n'y croit pas à la fusée réutilisable, ce n'est qu'un rêve. » Et les rêves deviennent réalité s'il y a de l'effort, s'il y a de la vision, s'il y a de l'innovation. Donc, nous aussi, on peut le faire. Mistral, qui vient d'être valorisé à 20 milliards de dollars, oui. C'est un exemple qu'en France aussi, on peut mettre les moyens et on peut avoir des succès. Donc, il faut stimuler ça sans se dire qu'on va les opposer. Les marchés sont internationaux, les sociétés sont internationales. Apple, qu'on utilise partout, elle est vendue partout, elle produit en Asie. Je pense qu'il faut voir le monde aussi comme étant globalisé, international, les capitaux et les entreprises.
Je vois Alain qui a l'air très sceptique en face de vous. Et Esteban, dans un instant, vous serez l'arbitre de ces débats et de ces élégances. Non, vous êtes sceptique, Alain, je le vois.
Le problème, c'est...
Attends, on va donner la parole à Rolando. Il va essayer de vous convaincre, voilà. SpaceX,
le sujet de l'épargne.
Rolando, il est à fond là-dedans. C'est ça qui est passionnant, c'est que vous venez de l'espace, presque. Vous connaissez cette matière, vous connaissez ce marché. Vous êtes dedans, vous avez les trois mains dedans, quoi. Et vos investisseurs aussi, d'ailleurs. Vous avez un fonds spécialisé. Est-ce que vous pouvez nous apporter les arguments qui pourraient justifier, ne serait-ce qu'un peu, la valorisation de SpaceX pour cette introduction qui s'est bien passée vendredi, encore une fois, encore en hausse le titre aujourd'hui. Donc ça a l'air de séduire pas mal de monde.
Absolument. Je pense que j'ai peut-être un petit avantage de traîner à La Paz, en Bolivie, à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça m'a peut-être rapproché un peu des étoiles, qui sait.
Vous venez de la plus haute capitale du monde, La Paz, effectivement.
Exactement. Oui. Alors moi, je pense, SpaceX, déjà, il faut arrêter de parler de 2025. Ça, c'est la préhistoire dans l'ère des IA, dans l'ère du spatial. Il faut voir déjà 2026 et encore aujourd'hui, la plupart des investisseurs s'écalent sur 2027. Et SpaceX, c'est trois business, les fusées, la connectivité avec Starlink et surtout l'IA. Et heureusement que l'IA est arrivée, sinon SpaceX n'aurait pas pu maintenir cette valeur à 2 trilliards plus. En revanche, la combinaison de ces trois marchés géants, les lanceurs, donc l'autoroute vers l'espace, les satellites, la connectivité partout de manière robuste, résiliente et l'intelligence artificielle sur Terre comme en orbite, ça fait un beau mélange. Vous parliez, Guillaume, de cette centrifuge, c'est un peu cette alchimie qui s'est créée quand vous avez le moyen d'aller dans l'espace pour pas cher, le moyen de connecter la Terre entière de manière résiliente, comme on l'a vu en Ukraine, où très vite les tours télécoms ont été désactivées, le spatial est venu prendre un relais immense et nécessaire. Et les data centers dans l'espace, c'est vraiment là où réside la valeur. Je le disais vendredi dernier, nous on pense que SpaceX, dans 2030, c'est 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, valoriser 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires rentable, pour moi, justifie la valeur actuelle des SpaceX. Pas plus tard que hier soir, Elon Musk a dit sur X, anciennement Twitter, que pour lui, c'est 1 trilliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est très songeur. Mais entre 300 milliards et 1 trilliard, si la vérité se trouve entre ces deux-là, il y a du potentiel. C'est donc normal qu'aujourd'hui, SpaceX monte en bourse.
Oui, je vois une analyse qui explique que valoriser SpaceX comme une entreprise purement spatiale lançant des satellites, c'est une grave erreur. C'est comme valoriser Internet en 95 sur le marché du fax. Starship ne réduit pas le coût du kilo en orbite de 20%, il le divise par 100. Et chaque fois dans l'histoire qu'un coût d'infrastructure a été divisé par 100, c'est pas un marché existant qui a grossi, ce sont des industries entières qui sont nées de rien. Le coût du calcul divisé par 100 a permis Internet, le smartphone, l'IA. Le coût de l'orbite divisé par 100 va donner une économie spatiale complète. Avec un passage par SpaceX. Alain.
Ça y est, j'achète. La première chose, c'est que si on regarde froidement les chiffres aujourd'hui, effectivement, c'est pas achetable pour un gérant traditionnel. D'ailleurs, la plupart des gérants traditionnels, des analystes traditionnels, sont pas acheteurs sur la valeur. Bon, ça, c'est un fait, c'est comme ça. Après, là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il faut, et c'est comme ça que je regarde le marché, je pense, et c'est comme ça qu'on l'a vu regarder Nvidia, qu'on l'a vu regarder plein de boîtes, Palantir, Renko, c'est, ils regardent ça comme un investisseur en private equity qui se dit, le monde va changer avec ce que vous avez décrit, je ne vais pas revenir dessus, et qu'à un moment donné, il va y avoir un gain de part de marché, ils ont une part de marché qui va être colossale, avec une rentabilité qui va être affirmée pendant un certain temps et qui va croître de manière assez exponentielle. Donc ça, c'est vraiment le raisonnement du private equity et qui me va tout à fait, et qui justifie le prix d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'achète comme quand vous faites un investissement en private equity, et la plupart du temps, on se dit, on raisonne, parce que c'est difficile de raisonner bien au-delà, on raisonne sur quelque chose comme 5 ans, qui donne quand même déjà une bonne visibilité disons un horizon assez prévisible sur ce genre de choses. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est pas le discours qui me va bien, le discours de l'espace. Enfin, moi, je suis investisseur dans Rocket Lab depuis un bon moment, donc je suis assez convaincu par cette approche. Maintenant, je pense que le sujet, c'est que, et c'est ce que vous avez dit, qui dérive un peu gentiment, c'est-à-dire que on évoque un chiffre d'affaires, on évoque une rentabilité qui va riper de 2-3 ans, parce que c'est tout le temps comme ça avec Elon Musk, c'est-à-dire que il annonce quelque chose, il est assez optimiste, et puis finalement, c'est pas au bout de 5 ans, c'est au bout de 7-8 ans. Et là, ça change la donne par rapport à la valo d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous raisonnez en vous disant je vais doubler dans 5 ans, et puis qu'on vous dit bah si finalement c'est pas 5 ans, c'est plutôt 7 ans ou 8 ans, et ben faut ramener le prix à la baisse. Et puis l'autre point qui est vraiment déterminant pour les investisseurs en private equity, c'est le côté de l'homme clé. Alors vous allez me dire, ouais, sur 7-8 ans, c'est pas très grave. Mais si vous raisonnez sur 10 ans, vous disant j'ai besoin que Elon Musk soit là encore pendant 10 ans, ben la décote, elle est encore un peu plus importante par rapport à aujourd'hui. Vous prenez un risque quand même en faisant ça. Donc, un investisseur en private equity, je pense qu'aujourd'hui, le vrai prix qu'on devrait avoir sur SpaceX, il est plutôt aux alentours de $100. C'est-à-dire que, grosso modo, 20% de décote pour la rentabilité en se disant qu'elle va être programmée un peu plus tard. Et puis, le problème d'Elon Musk, qui est quand même l'homme clé majeur.
Oui, il a plus de 50 ans, non? Il a à peu près 50
oui,
ans.
Oui, mais ça va. Je suis pas très inquiet.
Ouais, mais le prix de l'assurance au-delà de 50 ans quand vous prenez un crédit immobilier augmente quand même.
Et ce qui est marrant, c'est si vous regardez deux grandes boîtes qui ont connu un peu un genre de parcours comme ça. Si vous regardez Nvidia, ce truc où on achète 100 fois le chiffre d'affaires en se disant à un moment donné ça va doubler, etc., ça a marché. C'est-à-dire que ça a marché sur Nvidia qui a finalement doublé et qui aujourd'hui est sur une valorisation raisonnable. Par contre, si vous regardez Snowflake, ça s'est vendu à un moment donné 100 fois le chiffre d'affaires, et puis le patron a démissionné. Les chiffres n'ont pas été là, et ça a baissé de 70%.
L'arbitre des élégances, c'est Stéphane Besson pour Zone Bourse. Voilà, c'est un spécialiste tech, donc forcément il a un biais, mais il est journaliste, donc il est neutre.
Ouais, mais il truande parce que derrière lui, c'est pas une vraie image.
C'est le lac d'Annecy. Ah non, vous êtes cruel. Je comptais pas faire. C'est vrai. Bon, oui, effectivement.
Il est presque pareil actuellement. Il fait peut-être encore plus ensoleillé.
Ce qui fait bizarre, c'est quand on a cette image-là au mois de janvier. Je vous avoue qu'à ce moment-là, surtout à 17h20 où il fait nuit en janvier, on est toujours très surpris. On se dit, mais c'est magnifique, Annecy, il faut bien enregistrer. On prend que les Français veuillent. Esteban,
on doit essayer de faire tourner.
Mais pour une fois, c'est pas moi qui vous chambre sur ce fond derrière vous, là, cette vidéo. Bon, je voulais vraiment pas le faire. Vous êtes pas très sympa, Alain, parce que je comptais pas le faire. D'accord, on a deux avis, là, très opposés, très divergents. Vous êtes au milieu, vous êtes plutôt du côté de notre homme de l'espace, là, Rolando Grandi, ou plutôt du côté d'Alain, très sceptique sur la valorisation. Vous situez où, vous, en tant que journaliste, en plus, Esteban? Vous êtes neutre, forcément.
En tant que journaliste, on va prendre deux choses qui sont vraiment réelles. Pour moi, il y a le côté humain, en fait, qui apparaît très simplement. C'est-à-dire que Actuellement, SpaceX, c'est devenu 80% des mises en orbite sont de SpaceX. J'ai des amis, il y a encore peu, ils se lèvent dans la nuit, ils regardent le soir ou quoi, les lancements de SpaceX en direct, parce que ça fait rêver tout le monde. Donc, qui, finalement, ne rêve pas de dire « j'y participe, j'ai du SpaceX, j'ai investi quand SpaceX c'était là, en fait ». Et c'est un peu comme les gens qui racontaient comme quoi ils investissaient dans Internet à l'époque où ça paraissait fou de connecter les gens. Et il y a un peu de ça, en fait. On aurait tous rêvé que la NASA s'introduise un jour. Bah, SpaceX le fait et la NASA est plus du tout dans la course, finalement, actuellement, pour le spatial. Donc, c'est clair que ça fait rêver, surtout que... les étoiles, quoi. Enfin, tout le monde rêve des étoiles. Et d'un autre côté, la valorisation, elle est claire et nette qu'on est au-dessus de Palantir actuellement. Et je voyais un article une analyse de Bloomberg qui disait justement que, en fait, on avait une valorisation premium au-dessus de celle de Palantir. Et Palantir, pendant longtemps, tout le monde criait un peu au scam, personne ne comprenait réellement ce que ça faisait. Et quand la guerre a explosé, enfin, le conflit, on va dire, entre les États-Unis et l'Iran, on a commencé à avoir des applications claires et nettes. On a commencé à entendre parler de comment était utilisé Palantir et qu'est-ce qui s'est passé. Palantir a complètement explosé au début de ce conflit. Et donc là-dessus, on peut avoir un phénomène assez similaire sur une réussite d'une mission assez importante, par exemple sur SpaceX ou quoi que ce soit. Ça va être des catalyseurs qui vont être clairement optimistes. La complexité pour moi, pour SpaceX, de savoir si on est emballé ou pas, c'est de savoir sur quoi on veut miser finalement, parce que il y a trois branches, trois segmentations dans SpaceX qui sont claires et nettes. Le spatial, le Internet, la connectivité, et derrière, on va avoir l'IA. Et ces trois branches-là, c'est trois endroits trois segments qui n'ont pas du tout la même maturité, qui n'ont pas du tout d'ailleurs les mêmes catalyseurs haussiers, baissiers, les mêmes pressions. Et donc, il va falloir prendre ça indépendamment et comprendre aussi lequel est valorisé par le marché, en fait. Qu'est-ce que derrière le marché, il attend le plus entre est-ce que SpaceX réussit bien dans son lancement de fusée ou est-ce qu'il réussit bien dans l'IA ? Et c'est là que va être toutes les questions prochainement. On le voit notamment par leur TAM qui a été annoncé. Ils misent beaucoup, beaucoup sur le développement de l'IA. Donc, est-ce que c'est ce que le marché attend ou pas aussi, en fait? Et moi, c'est un peu les questions que je vais suivre les soirs de publication. C'est quel segment va être porteur et lesquels vont être moins porteurs?
Oui, Rolando, le pari d'Elon Musk, c'est que la planète B, elle existe. Cette planète B, c'est l'espace. Il veut faire de l'espace la planète B. Son pari fonctionne, on aura la fabrication en microgravité de semi-conducteurs, de fibres optiques, d'organes imprimés, des organes imprimés impossibles à produire sur Terre du fait de la gravité. On pourra les faire dans l'espace. Oui. On peut décrire comme ça ce nouveau monde que fantasme, mais qu'essaie aussi de construire, de bâtir Elon Musk.
C'est la nouvelle frontière. Et aujourd'hui, on a déjà une usine dans l'espace. Elle s'appelle les stations spatiale internationale. Elle est toute petite, on fait des petits volumes, mais on fabrique des médicaments qui sont plus puissants que lorsqu'on les fabrique sur Terre. Le Keytruda de Merck, donc un des blockbusters dans l'oncologie, il a été synthétisé à l'ISS. Google fabrique des bouts de fibres optiques qui sont parfaits, qui n'ont pas les imperfections qu'on peut avoir sur Terre, même s'ils sont des très bons câbles, parce que là-haut, on a l'absence de gravité, qu'on n'a pas sur Terre. La gravité sur Terre est une constante. Et donc, il y a tous ces projets de fabrication d'objets en microgravité, d'où le questionnement, la raison de cet IPO qui arrive au même moment que Starship, la fusée phare, devient enfin commercialisable. Parce qu'elle est réutilisable à 100%. Vous l'avez dit, ça diminue encore par 10 le prix du kilo envoyé dans l'espace. Elle est plus grande. Ça aussi, il faut se rendre compte, c'est l'objet le plus grand envoyé dans l'espace, le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Donc, on peut envoyer plus de choses. Donc, des usines robotisées qui vont fabriquer des objets, des data centers. Ça y est, finalement, l'autoroute vers les étoiles est enfin ouverte. Et c'est ça la magie de cet IPO.
Ouais, Brivel Le Pogam complète ce que vous dites en expliquant on aura aussi le tourisme orbital de masse, puis les hôtels lunaires qui passeront du fantasme au business plan, exactement comme la croisière de luxe au XXe siècle. Le transport de Paris à Tokyo prendra 40 minutes dans 50 ans, dit-il, grâce à certaines solutions SpaceX et l'industrie minière des astéroïdes qui peut changer la face de l'humanité et le pouvoir, le potentiel humain deviendra quelque chose de tout à fait normal et nous extraira du néolithique. Voilà.
Non, mais j'ai aucun problème avec tout ça. Mais après, moi, je reviens un peu à la triste réalité d'un gérant de portefeuille. Voilà. Oui. Il faut se mouiller parce que tant qu'à faire, on se mouille et puis ça permettra d'être démenti peut-être dans quelques temps.
De toute façon, on ne sera plus là quand on sera démenti.
démenti, donc ça tombe bien. On prend pas de beaucoup de risques, en fait.
Internet a de la mémoire, bizarrement. Enfin, je peux trouver deux, trois trucs que j'ai pu dire et qui se sont fait démentir ou pas. C'est... En fait, voilà. Moi, ce que je pense, c'est pour un client, pour un investisseur particulier aujourd'hui, je parle pas des professionnels qui se débrouillent par eux-mêmes, mais je fais réfléchir à un investisseur particulier en disant aujourd'hui, moi, personnellement, j'achèterais cette valeur-là vers 100 dollars. Toutes choses égales par ailleurs. Bon, s'il y a d'autres nouvelles, s'ils font de la croissance externe ou je sais pas quoi, ce sera autre chose. Mais aujourd'hui, je serais plutôt acheteur vers 100 dollars et j'en mettrais pas plus que 3-4% en complétant ça avec éventuellement d'autres titres qui ont une approche private equity pour être sur quelque chose comme 10% et pas plus dans mon portefeuille, parce que il peut y avoir une énorme volatilité et ce qui est normal, c'est un pari sur l'avenir, donc il peut être démenti là aussi de manière assez nette. Donc voilà mon avis, 100 dollars, pas plus de 3% d'un portefeuille.
Ouais, mais la grande erreur effectivement serait de regarder le business potentiel en disant bah oui, c'est beaucoup trop cher, comme quelqu'un qui aurait dit à la naissance d'internet les valeurs Internet, c'est beaucoup trop cher. Internet, ça n'aura pas tant d'avenir que ce qu'on imagine, parce que regardez le fax, ça a donné ça, quoi. Ben non.
Oui, mais après, si vous voulez, moi, je regarde aussi ce qui s'est passé sur des boîtes comme Amazon, Google, etc., qui ont quand même sévèrement reculé quelques temps après leur introduction.
Oui. Bah, Amazon, ils sont bien, là.
Quitte à avoir le même.
Faut choisir la bonne.
Moi, j'ai la même perspective que vous, hein, sur l'avenir de SpaceX. Simplement, je me dis, entre l'acheter à 200 et l'acheter aux alentours de 100, bah, je préfère attendre un peu. Quitte à rater un peu la part de rêve et d'investissement, mais en me disant que peut-être que je commencerai à ce niveau-là et puis je compléterai au fur et à mesure.
Rolando, vous y croyez, SpaceX, ça n'empêchera pas sans doute à un moment une forte baisse. Alors on attend dans les prochaines semaines encore le soutien des fonds indiciels, Nasdaq, tout ça, mais à un moment il y aura une grosse consolidation, on l'imagine. C'est l'autre, toutes les IPO, il y a toujours une phase de très lourde consolidation.
Juste pour ma gouverne, vous en avez mis combien dans votre portefeuille? Juste pour dans votre principal portefeuille espace, vous en avez mis combien?
Aujourd'hui on est à 2,5. Mais on est en construction des portefeuilles, en construction des lignes, parce qu'on a la chance finalement d'être dans les marchés et donc de pouvoir profiter. Si en effet, Guillaume, dans quelques mois, SpaceX souffre une redon des 20%, ce qui est complètement possible, nous on sera les plus heureux, parce qu'en revanche, ce qui est ma conviction, c'est que dans 10 ans, c'est un titre à 1000 dollars. Donc, que j'achète à 100, à 150 ou à 200, dans 10 ans, je sais que j'ai cette projection, parce que nos investisseurs nous accompagnent sur des 5, 7, 10 ans.
C'est le Nvidia d'il y a 10 ans, quoi.
Bien probablement plus, parce que c'est un marché adressable qui est beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, vous avez parlé des fabrications d'objets en microgravité, des space mining, des bases sur la Lune, mais ça, nous, on ne l'a même pas mis dans la valo. Nous, on s'est dit déjà, les data centers, ça va être un immense business. Il faut le comprendre que c'est vraiment une des grands leviers de croissance.
Esteban, est-ce que ce qui pourrait soutenir un peu SpaceX, c'est... Alors, il y a plein d'autres IPO à venir, Anthropic, OpenAI, sauf qu'on voit que les acteurs de l'IA, là, ils ont une chape de plomb d'un seul coup. Là, depuis vendredi, l'administration américaine veut empêcher Anthropic de mettre à disposition des non-américains ses meilleures intelligences artificielles. Ça veut dire que le marché adressable d'Anthropic, d'un seul coup, se trouve complètement coupé, quoi. Ce serait réservé aux seuls américains. C'est pas pareil. Alors, pour un groupe qui veut s'introduire en bourse, c'est pas le meilleur des contextes, on l'imagine. Le risque réglementaire, le risque politique, peut-être l'État américain voudra-t-il prendre une part du capital, d'ailleurs, dans ces acteurs de l'IA, tellement c'est stratégique. Est-ce que tout ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne pub, au contraire, pour SpaceX, puisque Anthropic va faire son intro dans ce contexte, avec le doute qu'a mis l'administration depuis vendredi soir?
Je pense que ça ne va pas aider, ça c'est sûr et certain. Après, encore une fois, l'administration, elle est vouée à changer. Donald Trump a fêté ses 80 ans il n'y a pas longtemps, et c'est son dernier mandat. Donc, on imagine que effectivement, les contextes vont être différents, avec peut-être aussi, on va dire, quelqu'un de moins agressif sur les marchés. On a vu depuis son deuxième mandat, Donald Trump a beaucoup, vraiment voulu beaucoup, beaucoup asseoir sa puissance avec constamment la question des tarifs douaniers, la Liberation Day, tout ça. Il y en a vraiment eu beaucoup ces derniers temps, de pression, de réglementation. Il y a moyen que ça se calme quand même au bout d'un moment, moi c'est ce que je me dis. Après, effectivement, ça reste des risques qui vont être là, qui vont être constants et qui ne sont pas à minoriser. Donc, probablement, après, c'est aussi le moment où je pense, comme on disait un peu au début, bah, peut-être d'aller chercher de nouveaux acteurs et des acteurs plus locaux. Mistral AI, ils sont tout juste à 20 milliards. On parle presque de 1000 milliards, encore une fois, pour Anthropic ou OpenAI sur leur introduction. Bah, visiblement, il y a aussi de la marge pour qu'on développe nos propres acteurs et qu'on aille plus loin. Et c'est ça, moi, que je trouve peut-être un peu plus intéressant. Après, effectivement... C'est peut-être du coup un contexte beaucoup plus compliqué pour Anthropic. Et derrière, après, ce que vend aussi SpaceX pendant ce temps, bah, c'est aussi le fait de... Bah, peut-être que là, on a une période un peu de doute, mais derrière, bah, ils vont combler avec Starlink, qui n'a pas du tout les mêmes catalyseurs. Donc, Encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on veut aller chercher dans SpaceX, qui devient en fait vraiment une entreprise assez tentaculaire là-dessus. Mais c'est vrai que l'IA, il y a encore beaucoup de questions. C'est pareil, le marché de XAI est en fait beaucoup construit sur la promesse de TerraFab, donc c'est cette fameuse fabrication en orbite gigantesque, etc., avec Intel et tout ce qui va bien. Est-ce que ça va se faire? C'est un peu, moi, c'est là où je mets un peu plus de réserve. On a eu les mêmes promesses avec l'usine de Tesla qui a eu beaucoup de retard, qui a jamais atteint la fabrication de batteries qui était promise. Donc, faut rester toujours un peu, savoir peser le pour et le contre et savoir quels sont les catalyseurs qu'on attend.
Effectivement, le cas anthropique quand même, est-ce que ça met un plafond au potentiel de l'IA si l'État américain comme ça met son nez et dit ben non, là l'IA devient tellement forte que on va arrêter de la rendre disponible au reste du monde, elle restera purement américaine, ce qui limite le marché adressable quand même, ouais, ça change la donne.
Alors. Moi il y a deux choses, il y a le modèle, ils ont arrêté qu'un modèle. Le reste continue d'être en vente libre, hein, donc il n'y a pas de sujet là-dessus.
Oui, mais les IA sont vouées à s'améliorer et devenir super puissantes, finiront toutes par être limitées.
C'est ça le problème de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'épargne. Alors c'est vrai que c'est bien qu'elle soit internationale, on peut faire ce qu'on veut, acheter des valeurs chinoises, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Simplement, justement, si on prend l'exemple de la Chine, du jour au lendemain, c'est nationalisé, ça l'est de fait. Et là, vous perdez votre mise. Bon, bah, tant pis pour vous. Fallait pas investir en Chine dans un pays communiste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça.
Donc, et les IA chinoises vont pas bénéficier du doute sur l'IA américaine.
Personnellement, je trouverais ça incroyable. Mais bon, pourquoi pas? Enfin, on n'est plus à ça près de s'il faut placer ses retraites en Chine pour gagner un peu d'argent. Bon, mais ça finit. Là, pour le coup, je pense que ça finira mal. Et là, ce qui est vrai, ce qui est embêtant, c'est de se retrouver avec un modèle américain qui est totalement. C'est pas au début Trump, c'était America First. Maintenant, c'est quand même America. En stand-alone quand même. Hein. Et on peut imaginer, pourquoi pas, que demain, une administration américaine décide de retirer les droits de vote aux non-américains. Pourquoi pas? Je veux dire, à partir du moment où on vous empêche d'accéder à un service qui était avant disponible, pourquoi ne pas imaginer quelque chose comme ça? Alors, aujourd'hui, on n'y pense pas, mais c'est tout à fait possible, demain, que l'administration américaine légifère sur la détention de titres américains, comme elle légifère sur la détention de dollars américains. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qui change la donne, je trouve, sur un plan stratégique long terme de l'investissement. Après, j'ai pas de solution aujourd'hui, d'autant que nos amis européens sont quand même englués dans un marasme réglementaire-politique qui est quand même assez pathétique.
On voit néanmoins face à ce risque, on va dire cette prise de conscience, l'IA anthropique, on voit les valeurs souveraineté européennes, par exemple OVH Cloud, progresser aujourd'hui 6%. Voilà, on voit que le marché parie sur une prise de conscience européenne.
Tout le monde évoque depuis samedi, tout le monde évoque Mistral. Le problème de Mistral, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur sur le plan des modèles par rapport aux autres modèles américains et chinois. Donc, aller mettre de l'argent dans une entreprise qui est quand même un peu en retard aujourd'hui, c'est embêtant au niveau européen. Vous voyez, donc le sujet, il est sur c'est un enjeu à 10 ans. Il va falloir qu'on se bouge.
Il y a Eric Lewin qui dit que vous faites à nouveau des tunnels, mais parce qu'il arrive. Ce sera à vous, Eric, dans deux minutes. La clôture. Rolando, comment vous regardez ces enjeux-là autour de l'intelligence artificielle là?
Je pense qu'Anthropic l'a demandé, il l'a reçu. Dario Amodei, le CEO, a alerté Mythos, c'est un modèle dangereux. Récemment, il a dit qu'il faut ralentir l'IA, et donc là, il a reçu un peu ce qu'il avait demandé. Donc moi, je pense que c'est aussi un coup un peu des pressions du gouvernement américain. Moi, je pense que d'ici vendredi, Fable, donc le modèle, va être rétabli. Les États-Unis ont appris qu'en interdisant les autres pays d'avoir accès à les plus grandes technologies, ils les développent d'eux-mêmes. C'est ce que la Chine a fait sur les processeurs. Ils ont interdit Nvidia, mais désormais, la Chine fait ses propres processeurs. Ils sont en retard, mais ils s'en moquent parce qu'ils ont de l'argent pour les financer. Donc, je pense qu'ils ne vont pas interdire les modèles pour toujours. Fable, c'est un problème plus lié à Anthropic et l'Unity 2 personnel, où Anthropic ne sait pas parler à l'administration américaine, chose qu'OpenAI fait un peu mieux. Donc, moi, je pense que ça va se décanter un peu. Donc, j'extrapolerai pas trop, même si on est encore sur un sujet d'hyperactualité.
Ouais, des sujets passionnants. Peut-être plus important que la Fed. Hein, après-demain, on attend un statu quo de la réserve fédérale américaine. Non, mais l'hyper-croissance, on sait que 50% de la croissance américaine vient des investissements liés à la tech et à l'IA. C'est presque plus important que les taux de la Fed mercredi soir, là, ce dont on est en train de parler. Alors.
On est dans une révolution industrielle, c'est la quatrième. Donc, c'est cohérent, tout à fait.
Eh oui. Merci à tous de nous avoir accompagnés.
J'ai écouté Eric Lewin parce que je veux voir si ce qu'il dit est intéressant.
Il arrive, la parole du sage, dans un, du sage, je sais pas d'ailleurs. Merci à Rolando Grandi, Ita Vera, merci à Esteban Tesson. Merci beaucoup Esteban de nous avoir accompagnés pour Zone Bourse et Alain Pitous, donc pour AI for Alpha. Le CAC, dans un instant, va clôturer cette première séance de la semaine. À tout de suite, on va vivre ça en direct.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Première clôture de la semaine, le CAC 40 gagne 0,4%. C'est énorme, hein, alors qu'on a quand même un pré-accord de paix entre Américains et Iraniens qui doit être signé vendredi en Suisse. Mais peu à peu, au fil d'après-midi, les marchés européens ont lâché un peu de terrain, ont limité leurs gains. On termine à plus 0,4 seulement sur le CAC, 8384, alors qu'on avait franchi ce matin les 8005. Les 8005 pour la première fois d'ailleurs depuis la fin février, avant le conflit en Iran. Ben, on termine à 8384. Total Energy souffre de la baisse des cours du pétrole, le Brent à 83$, le titre perd 4,5%. À la hausse en revanche, alors le secteur du luxe, très exposé au Moyen-Orient, il termine en hausse. On a aussi bien sûr Air France KLM à plus 3,5% ou encore Accor dans l'hôtellerie qui gagne plus de 2%. Romain Dobry nous rejoint, Bourse Direct. Bonsoir Romain. Comment vous le sentez?
Bonsoir,
comment vous la sentez? Là, cette clôture à seulement plus 0,4. C'est un peu faiblard, non Romain?
C'est extrêmement décevant. On prenait presque 2% au plus haut de la séance, 80% sur l'indice parisien. Et on retrace là où c'est le plus flagrant, c'est sur le secteur du luxe. On a un titre LVMH qui prenait presque 5% à un moment, qui clôture uniquement en hausse de 0,39. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est les titres sur lesquels ça s'est le moins dégonflé. On voit que ça reste solide sur le secteur bancaire. On voit que c'est aussi en hausse relativement solide sur les valeurs automobiles. Mais effectivement, il y a des retracements qui sont un peu marqués sur les autres titres. Donc, on a débordé cette zone de prix, 8357 points sur l'indice CAC 40. Tant qu'on est au-dessus, c'est du mieux, mais on voit qu'on avance en crabe et qu'on n'a pas réussi à aller combler le gap baissier qu'on avait laissé ouvert le 2 mars dernier au moment de l'annonce du conflit en Iran. Donc, on est toujours calé sous ce niveau de 8553 points, qui est un nouveau plafond de verre. Donc, on avance, mais vraiment avec peu de momentum sur les indices. C'est vraiment du stock picking qu'il faut privilégier. On voit qu'il y a du mieux sur des titres comme le secteur de l'assurance aussi. AXA reste assez solide parmi les différentes valeurs qui ont surperformé aujourd'hui.
Et qui a touché un record d'ailleurs aujourd'hui, AXA. Dans le secteur bancaire, il y a aussi BNP Paribas ou BBVA qui touche des records historiques, figurez-vous, aujourd'hui, avec la hausse de taux en plus annoncée par la BCE, qui sera peut-être pas la dernière, on verra. Bah, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais pour ce secteur financier. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagnés. Romain Lobéry pour Bourse Direct. Tout de suite, on va refaire la séance avec Eric Lewin.
BFM Bourse, on refait la séance.
Eric Lewin, stratégiste action pour Bourse Direct. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Alors, ce matin, on gagnait près de 2% sur le CAC. On franchissait les 8500 points, on se disait plus haut, plus fort. Eh ben non, on termine à seulement plus 0,4. On est un peu déçus. Il y a quand même un pré-accord en vue entre Américains et Iraniens qui doit être signé vendredi. On l'attendait. Là, cette fois, les Iraniens confirment. Et les Américains aussi. On y est, Eric. Et non, on termine à plus 0,4 à peine.
Moi, je pense que c'était largement anticipé, dans la mesure où on se rend bien compte que Trump n'avait pas le choix. Pourquoi ? Vous avez aux États-Unis un pouvoir d'achat des ménages qui a baissé de 0,6% en un an. Vous avez un taux d'épargne des ménages qui est simplement à 2,6%. Vous avez quand même une économie américaine qui ne tient que parce que les grosses GAFAM dépenses en CAPEX. Il y aura 700 milliards de dépenses. Donc Trump n'avait pas le choix. Et donc, depuis quelques semaines, c'était quand même un petit peu anticipé. Quand vous regardez, moi je regardais certains secteurs, si vous voulez, par exemple. Quels sont les secteurs qui ont le plus profité? Ben, par exemple, le transport aérien, c'est sûr qu'avec ce qui se passe, c'est une aubaine pour le transport aérien. Mais Air France avait déjà pris 20% en un mois. Le luxe, évidemment que c'est une aubaine. Les duty free, le hub de Dubaï qui va rouvrir et qui va amener énormément de voyageurs dans cette région du monde qui représente entre 5 et 7% des ventes de luxe, mais LVMH avait pris 15% en un mois. Les banques, c'est sûr que c'est au plus haut historique BNP, mais BNP en un mois, ça avait repris 10%, comme si les investisseurs se disaient que de toute façon, Trump n'avait pas le choix, qu'il fallait un accord, même si c'est un accord de façade, parce que là, on se gargarise de l'accord. Vous avez toujours le régime des mollahs, l'uranium, on n'en sait pas plus. On va dire qu'il y aura peut-être des perspectives d'ébauche sur l'uranium, mais en réalité, c'est pas du tout une victoire de Trump.
Et le détroit d'Hormuz, on entend même parler d'un possible péage.
Péage, et puis attendez, pour remettre à flot toutes les installations pétrolières, ça va mettre du temps. Il y a Patrick Pouyanné qui disait que le pétrole risque de rester pendant longtemps à $80.
Et du coup, on risque d'avoir beaucoup plus de navires qui veulent sortir du golfe Persique via le détroit que de navires qui veulent y rentrer et revenir.
Évidemment, donc si vous voulez, comme la situation est quand même un petit peu complexe et qu'on avait quand même beaucoup progressé, qu'on a un Nasdaq quasiment au plus haut historique, un CAC qui est quasiment au plus haut de l'année à 50 points près, ben c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, finalement, il y a un salut extrêmement mesuré.
Il est sage, hein, le marché. Franchement, il est très, très sage. Non, mais c'est...
Ben, il était surtout sage.
Il pourrait s'enflammer pour rien.
Il était surtout sage pour moi quand on était au climax de la crise entre l'Iran et les États-Unis, où vous aviez Trump qui, tous les jours, disait « je vais détruire l'Iran », et où, finalement, non seulement le VIX, l'indice de la volatilité, montait peu, et non seulement les marchés actions ont extrêmement bien tenu, hein. Je pense que dans quelques années, on va complètement avoir oublié cet épisode alors qu'on pensait le pire il y a un mois. Donc oui, les marchés tiennent bien, mais enfin, c'est encore plus spectaculaire sur tout ce qui est IA. Hein. La Corée doit faire plus 80% depuis le début de l'année sur le Kospi, le Nasdaq fait plus 15, enfin bref.
Attends, vous m'avez demandé de ne pas parler d'intelligence artificielle ce soir,
on peut en parler.
En préparant. Vous m'avez dit, oh, l'IA, tout le monde en soupe, là, c'est bon, on
non,
en a assez parlé.
J'ai dit que simplement, on devait parler de Schneider qui fait un accord avec Foxconn. Je vous dis simplement que Schneider, c'est sûr que de plus en plus, ils se rendent compte que sa voie pour améliorer sa valorisation boursière, c'est l'IA. Et c'est vrai que cet accord avec Foxconn va dans le bon sens. On est quasiment au plus haut historique et ça vaut 28 fois les bénéfices. Donc Schneider et Legrand, on en a tellement parlé, vous et moi, semaine après semaine, que je me suis dit, on va pas en reparler. Mais bon,
Vous m'avez dit en préparant cette interview, surtout, m'interroge pas sur Schneider, on en a déjà beaucoup parlé. Et bien là, je vous ai fait en parler tout seul. C'est
exactement.
Pas moi qui ai introduit
ça. Bon, ça vaut 28 fois les bénéfices. Okay. Ça commence à être cher, mais dans ce monde de l'IA, on a l'impression que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel.
Et le Nasdaq, puisqu'on est dans l'IA, gagne 3% quasiment ce soir. Oh là là, c'est incroyable. Attendez, Micron gagne 9%, Nvidia 3,5%, SpaceX gagne encore 9% après son
introduction. Mais pourtant, oui, au sein du Nasdaq, quand vous regardez depuis le début de l'année, Microsoft doit être à moins 10, Alphabet et Meta, c'est pas des performances exceptionnelles, Amazon, c'est pas exceptionnel. Donc en fait, il y a vraiment une rotation sectorielle à l'intérieur du Nasdaq, ce qui me fait dire que pour moi, il y a pas de bulle. Il y a peut-être une bulle un petit peu sur les semi-conducteurs, une petite bulle peut-être sur l'IA, mais pas sur toutes les valeurs. On n'est pas du tout comme en 2000, contrairement à ce qu'on nous annonce. Est-ce qu'on est en 99, est-ce qu'on est en 98, l'exubérance irrationnelle des marchés? Moi, j'y crois pas, mais je pense qu'à l'intérieur du Nasdaq, il peut y avoir parfois certaines zones grises et des valeurs qui baissent fortement, mais il y a pas de raison d'être extrêmement négatif.
Robin Daubry nous écoute Bourse Direct. C'est votre collègue, hein, vous êtes tous les... il dit que vous parlez beaucoup.
Voilà. Oui, je sais.
Il nous écoute et il trouve que vous êtes un moulin à parole, dites-vous.
Oui.
Bon, en même temps, c'est normal, c'est le seul invité, là.
Voilà.
On continue, du coup.
C'est mon Graal. C'est le quart d'heure d'Andy Warhol. Andy Warhol disait qu'on a un quart d'heure de célébrité dans la vie, et donc ça, c'est mon quart d'heure Andy Warhol.
Le CAC, ce soir, à plus 0,4. Alors, les valeurs souveraineté ont profité de ce qui nous arrive sur l'intelligence artificielle. Donc, l'État fédéral américain somme Anthropique de couper l'accès aux meilleurs IA, aux Européens, enfin, à tous ceux qui ne sont pas américains. Voilà. Un enjeu géopolitique sur l'IA, donc, et donc nos valeurs souveraineté qui reprennent du poil de la bête. OVH ce soir gagne 7%.
OVH, on n'arrête pas de le recommander, hein, on l'a fait ensemble, 128% de hausse depuis le début de l'année, on a 2,5 milliards. Depuis qu'Octave Klaba a repris les rênes de la société, ça va de mieux en mieux. C'est une très belle alternative aux boîtes américaines, on est dans le cloud souverain européen. La croissance attendue sur l'année entre 5 et 7%, boîte qui est quand même assez endettée mais extrêmement rentable. On a 41% de marge d'EBITDA, on a fait x2 sur la valeur depuis la publication d'avril dernier. Bon, ça vaut 65 fois les bénéfices, mais la boîte est incontournable. Parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais comment on peut acheter une boîte qui vaut 65 fois les bénéfices? C'est comme dans le cloud, vous n'avez que cette société. Alors, vous avez du Thales aussi, mais c'est pas un pure player. Comme vous avez simplement OVH comme pure player, eh bien, les gens se jettent sur la valeur et c'est pour ça que jour après jour, semaine après semaine, le titre ne cesse de monter. Ça doit valoir quoi? 17 euros ce soir?
Oui, on est à quasiment 16,92 hein, sur OVH, effectivement, à plus 7,5%. Oui, parce qu'on se demande, hein, comment bâtir une souveraineté technologique face au risque que les Américains nous coupent l'accès à leurs IA, etc. Les Chinois, pas mieux. Bon, bah, en fait, ce qu'on a, c'est OVH.
Et OVH, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé il n'y a pas longtemps une verticale
défense. Mistral, hein, mais c'est pas coté en bourse, malheureusement.
Ils ont créé une verticale défense. Donc, c'est intéressant. Donc, avec OVH, on pourrait avoir le thème et de la défense, et le thème de la souveraineté, et le thème du cloud, et le thème de la rentabilité. Donc, à mon avis, l'histoire boursière est loin d'être finie.
Vous parlez de la défense. Renault va construire, on a appris ça aujourd'hui, Renault va construire un véhicule militaire avec Thales. Renault termine à plus 3,7%, plus forte hausse du CAC.
Déjà, Renault, c'est pas très cher. Alors, les 3,7%, ça vaut 4 fois les bénéfices. Moi, je pense que c'est par rapport à Stellantis, je préfère de très loin Renault. Non, ce qu'on doit dire, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a beaucoup de constructeurs automobiles, on avait vu ça en Allemagne, qui se rendent compte sur l'automobile pure, c'est compliqué. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se diversifier. Et c'est vrai que les véhicules militaires semblent être la diversification la plus classique. Bon, sur Thales, ce qu'il y a à dire, c'est que le titre, pour moi encore, est pas très cher. Je pense qu'il faut avoir en portefeuille ces deux valeurs, Renault et Thales. Renault, ça me paraît être la plus belle valeur automobile à Paris, et Thales est incontournable dans le secteur de la défense.
Secteur de la défense, donc, qui a un peu déçu quand même ces dernières semaines. Rheinmetall aussi, qui s'inquiète du fait que le SCAF ne verra peut-être pas le jour. Tensions croissantes dans le segment défense entre Français et Allemands. Rheinmetall souffre depuis des semaines. Alors c'était supposé être les stars de l'année.
Non, mais il y a eu des telles performances stratosphériques. Performances stratosphériques. Et puis bon, si pour peu que ça se calme sur la Russie et l'Ukraine, les gens vont se dire, oh là là, il faut sortir des valeurs. Mais je crois qu'il faut avoir au moins 5% de son portefeuille dans les valeurs de défense.
Vous savez que le G7 démarre à Évian ce soir en présence de Donald Trump, qui a atterri tout à l'heure à l'aéroport de Genève. On a suivi tout ça en direct dans BFM Bourse d'ailleurs. Et effectivement, l'Ukraine, les questions de défense seront au cœur de ce G7. Les questions économiques aussi, puisque Donald Trump menace de taxer les vins français à hauteur de 100% si la France ne fait pas marche arrière sur la taxation des GAFAM. Alors là, voilà. On revient à cette guerre commerciale.
Il faut un nouveau petit jouet, quoi. Maintenant, il n'y a plus l'Iran, ça va être un petit jouet. Puis après, il va revenir sur Cuba. Puis après, il y aura la mi-terme. Bon, faut pas trop s'inquiéter de tout ça. La Coupe du Monde, il n'y est pas. Il n'a pas été voir le match des États-Unis. Les États-Unis ont gagné.
Oui.
Ce que j'ai envie de vous dire sur le, on devait parler un peu de Coupe du Monde. Je devance, c'est qu'en fait, j'ai regardé que une victoire en Coupe du Monde apporte simplement 0,1 point de PIB au pays qui gagne. Ce qui est pas beaucoup. Maintenant, comment peut-on jouer la Coupe du Monde de football via la bourse? Alors, l'hôtellerie, j'avais envie de vous dire l'hôtellerie, mais j'ai lu des articles ce week-end exceptionnellement catastrophiques sur l'hôtellerie qui n'arrive pas à remplir parce que c'est tellement cher qu'il y a certains hôtels, notamment à New York, où ils sont entre 25 et 30% de taux de remplissage, ils sont obligés de baisser de 20%. Donc, moi, je pense que le meilleur véhicule, alors je pourrais vous dire McDo, Coca, enfin bon, c'est un peu la tarte à la crème. Non, moi, je pense qu'Adidas, par exemple, ça peut être intéressant. Pourquoi Adidas?
Puma, parce qu'il y a un affrontement des marques, hein, sur ce.
Mieux que Puma, alors mondial. Surtout, Adidas, c'est 11% du chiffre d'affaires dans le foot. Nike, par exemple, c'est 5,5%. Adidas, ils ont 14 équipes sous contrat en Amérique du Nord contre 12 pour Nike. Puma revient de très loin. Ils sont quand même en plein redressement. Et quand vous regardez les valos, on est sur un PER de 17 sur Adidas contre 24 pour Nike. Et c'est le fournisseur officiel des ballons, Adidas. Donc, je suis plutôt pro Adidas. Je dis pas qu'il faut shorter Nike, mais si on doit choisir dans le secteur, c'est plutôt Adidas par rapport à Nike.
Et aucun acteur de la bière, des brasseurs, parce que le mondial de foot, généralement, ça démultiplie les ventes de bière. Il y a des acteurs américains aussi, hein, d'ailleurs. La Corona, par exemple, c'est très présent au Mexique. La Corona, c'est une bière américano-mexicaine.
Il y a pas beaucoup de matchs au Mexique. Je crois qu'il y a pas beaucoup. Je crois que sur les 104 matchs de la Coupe du Monde, il doit y avoir 80 matchs aux États-Unis. Non, mais il peut y avoir Coca, McDo. Mais moi, je préfère jouer les équipementiers sportifs.
Bon, c'est déjà un exploit de vous faire parler du mondial de foot parce qu'habituellement vous venez de Roland Garros, donc c'est pas très.
Non, j'ai un peu de mal, mais
pas complètement pareil.
Le CAC 40. On m'a dit que j'étais has-been de m'intéresser au foot, donc j'essaye de faire illusion, de faire le garçon qui s'intéresse au football.
Non, mais complètement, vous le faites avec élégance, il y a l'esprit de Roland Garros dans votre façon d'aborder le foot. C'est ça qui est bien, et vous n'avez cité aucun acteur des boissons parmi les possibles gagnants. On parlait tout de suite d'hôtellerie, etc. Donc on est dans le chic. Ouais. Le CAC 40 gagne 0,4% ce soir, donc en clôture, on le rappelle. Il y a une valeur qui se distingue, Saint-Gobain. Saint-Gobain aussi a bien progressé ce soir de plus de 3%. Alors peut-être grâce aux espoirs d'ouverture du Trois d'Ormuz, parce qu'ils dépendent d'un certain nombre de matériaux.
Ah non, c'est surtout la cession pour moi.
Ouais, c'est la cession. De leur activité de distribution en Europe du Nord.
En Scandinavie, 1,5 milliard, 10,4 fois l'EBITDA. Ils avaient cédé déjà des matériaux de construction au Brésil, c'était en mai dernier. La politique du président de Saint-Gobain, je crois que c'est Benoît Bazin, si je dis pas de bêtises, c'est de vendre les activités à faible croissance pour aller sur les activités beaucoup plus rentables, le bâtiment non résidentiel, les infrastructures ou encore les data centers. Cette année, ils devraient faire une marge d'EBITDA de 15, et moi je pense que ce titre, il faut se jeter sur Saint-Gobain. Ils vont réussir. C'est un titre qui a perdu 8% depuis le début de l'année à cause de tout ce qui se passe, valeurs cycliques, des droits d'Hormuz. Mais comme ils viennent de plus en plus dans les data centers, pour peu que ça monte en puissance à 11 fois les bénéfices, je vous rappelle qu'on paye Schneider 28 fois les bénéfices, alors qu'on paye simplement Saint-Gobain 11 fois les bénéfices, je pense que le titre pourrait rejoindre assez rapidement les 100 euros. Alors évidemment, Saint-Gobain, dont on doit fêter le 40e anniversaire de la privatisation, je crois que ça doit être cette année, en 86, si je me rappelle bien, puisque je débutais à l'époque en bourse il y a 40 ans, ça reste un très beau dossier.
Saint-Gobain, ce soir, qui se distingue à plus 3,1%, 78,08 €. Pour la suite, une pépite, une seule.
Non, il y a Figeac Aéro. Vous aviez une question là.
Ah, il y a une question d'éditeur. Oui, alors, il s'appelle Glenn the Best. Aimez-vous Figeac Aéro en bourse? Voilà.
Alors moi j'aime beaucoup.
C'est TPI Cap, je crois, qui a relevé son opinion.
Plus 2% depuis le début de l'année, 500 millions d'euros de capi, sous-traitant aéronautique notamment pour Airbus. Belle boîte, hein, les résultats sont sortis, eux ils sont sur un exercice décalé. La croissance organique a fait quasiment 16%, ce qui est pas mal. Ils sont sur une marge d'EBITDA de 16%. Ils ont un free cash flow autour de 36 millions d'euros. Il y a encore un peu de dette, il y a plus de 300 millions de dette, donc ça fait un levier de 3,35. Mais ça devrait passer, surtout les prévisions sont extrêmement, extrêmement optimistes, 530 à 560 millions millions d'euros sur l'exercice versus 486 millions, je vais être très précis, versus 86 millions. Et c'est pas très cher, ça vaut, en VE sur EBITDA, ça vaut 8 fois. Et la famille Maillard, qui est actionnaire principal, avait toujours dit qu'à terme, un adossement serait une solution largement envisageable. Donc, moi, je pense que si on a envie de jouer des opérations financières dans ce monde de l'aéronautique, Figeac Aéro, ça paraît être une très bonne piste. Simplement plus 2% depuis le début de l'année. Je pense que l'histoire est loin d'être finie. Donc, je suis plutôt positif sur Figeac Aéro.
Une idée. Tout à l'heure, John Plassard nous accompagnait, c'était dans USA Today, et nous disait, même les plus grands, même les géants de la tech, parfois, font des erreurs. Il est plus rare qu'ils les reconnaissent. Ben là, on a un homme et un groupe qui reconnaît une erreur dans sa stratégie intelligence artificielle, figurez-vous. C'est le patron de Meta, Mark Zuckerberg. Il a fait un mea culpa. John Plassard nous en parlait, c'était dans USA Today. Très, très intéressant à retrouver. Le replay est en ligne, disponible sur l'application BFM Business. Oui, oui. Mark Zuckerberg, dans sa carrière...
Est-ce qu'il a parlé du métaverse?
Il aura fait pas mal de mea culpa, et c'est ce que j'allais dire, exactement.
Sur le métaverse, il aurait pu planter la boîte. Mais enfin, ça reste des tels véhicules. Oui. De croissance, que même s'ils font quelques erreurs, c'est rétabli très vite.
Je pensais pas que votre pépite serait Meta. Alors ça, je m'y attendais pas du tout.
C'était Rémi Cointreau. Je pense qu'il faut être très contrariant sur ce titre. Numéro 2 mondial du cognac. Ils ont perdu 10 points de marge en l'espace de 2 ans, mais en termes de ratio, ça vaut 18 fois les bénéfices.
Et si Donald Trump impose 100% de droits de douane sur le vin français?
Le titre, ça vaut 2 milliards 100 en bourse, les stocks, c'est 2 milliards. Donc, si vous voulez, il y a très peu de risques à être actionnaire de Rémi Cointreau et puis Trump. On n'en est pas encore là, il va nous sortir d'autres surprises de son chapeau.
Oui, ça c'est sûr. Et le secteur bancaire, donc des records ce soir. BNP Paribas, au plus haut historique.
100 euros.
Oui, tout à fait. AXA aussi est sur un plus historique ce soir. Il se passe quoi dans le secteur financier là?
Le détroit d'Hormuz, ça va beaucoup mieux. Donc, on se dit que l'économie mondiale n'ira pas en récession. Et si l'économie mondiale ne va pas en récession, on achète quoi? On achète des banques. C'est assez simple, la finance, quand c'est expliqué comme ça. Mais je vous assure que c'est ça.
Il est fort, il est bon, il est en forme. Merci beaucoup. Eric Lewin, régulièrement à nos côtés. C'est le Pressing Power pour ceux qui nous suivent à la télévision. Oui, non, mais très chic. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir accompagnés. Le CAC 40 ce soir gagne 0,4%. Le Nasdaq en forme et le Dow Jones sur un plus historique à Wall Street. Dans un instant, Edwige Chevrillon, le 18-19. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.